Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours du club privé Innover Malin, dans lequel nous allons voir comment définir vos challenges d'innovation, c'est-à-dire ce sur quoi vous allez innover. Alors pour commencer, voyons ensemble les 5 raisons pour lesquelles vous avez besoin d'innover. Alors tout d'abord, on peut dire que c'est pour créer une évolution d'un de vos produits phares en perte de vitesse, mais ça peut être également inventer un nouveau produit pour étoffer votre gamme actuelle, ou créer une start-up si vous partez de zéro. Ça peut être également de trouver de nouveaux clients en proposant de nouvelles solutions sur un nouveau marché. On pourrait citer également imaginer le potentiel futur produit concurrent et vous en protéger au cas où. Et puis finalement, ça peut être tout simplement d'anticiper les marchés en devenir et vous y préparer au plus tôt. Alors voyons maintenant le plan que vous devez suivre et les 3 horizons de temps que vous devez prendre en compte. Pour commencer, parlons de votre plan d'innovation. Eh bien, de manière générale, lorsque vous vous lancez dans un projet, il vaut mieux avoir un plan. Alors, c'est quoi un plan? Eh bien, un plan, c'est tout simplement dire ce que vous allez faire et pour quand. Cela ne veut pas dire qu'il ne changera pas, évidemment, mais il faut bien partir de quelque chose et s'organiser, eh bien, pour atteindre un objectif. Une fois qu'on s'est dit ça, il faut se dire que finalement, on innove, en réalité, quand on travaille à atteindre quelque chose. Vous devez identifier les projets sur lesquels vous allez vous lancer et définir si c'est dans un horizon de temps, vous voyez, plus ou moins lointain. Eh bien, tout ça, ça vous permettra de vérifier la cohérence avec votre stratégie. Maintenant, abordons les 3 horizons de temps sur lesquels vous travaillez. Eh bien, pour construire votre plan d'innovation, vous devez avoir conscience de cette échelle de temps. Chaque horizon a son rôle dans la vie de votre entreprise. Alors tout d'abord, vous avez l'exploitation de votre activité, c'est-à-dire le court terme. Ensuite, vous cherchez l'amélioration de l'existant sur un temps un peu plus long, on va dire le moyen terme. Et ensuite, vous avez l'exploration de nouvelles propositions de valeur qui s'inscrivent sur un cheminement plus long terme. Voyons tout ça plus en détail. Commençons par le court terme et l'exploitation de votre activité. Lorsqu'on pense à l'innovation, on pense facilement à l'évolution d'un produit. En réalité, on a moins le réflexe, vous voyez, de penser aux petites innovations du quotidien qui pour autant, eh bien, permettent de maintenir l'excellence opérationnelle de votre entreprise. Alors évidemment, ce n'est pas ce qui va forcément attirer l'attention de vos clients, mais en tout cas, c'est ce qui permettra de les faire revenir. Car maintenir votre activité au top à travers une amélioration continue, eh bien vous permettra de vous maintenir dans la course. Cette démarche s'inscrit dans le court terme avec une mise en œuvre rapide des solutions proposées. On peut aussi dire que l'amélioration continue, eh bien, est plus une affaire, si vous voulez, de petits pas, mais qui vont tous dans la bonne direction. Un bon moyen de définir vos sujets d'innovation du quotidien est d'écouter tout simplement vos collaborateurs et vos fournisseurs. Vous voyez, tous ceux qui contribuent à l'exploitation de votre activité. Eh bien, si vous leur posez la question, vous serez étonné du nombre d'idées pertinentes qui en ressort. Et en plus, tous ceux à qui vous poserez la question, eh bien, seront ravis, enchantés que vous preniez en compte leur avis et vous en seront reconnaissants. Alors maintenant, parlons de l'amélioration de l'existant sur un horizon moyen terme. Eh bien là, nous entrons maintenant dans le cœur de votre plan d'innovation. C'est ce qui vous permettra de faire évoluer vos produits. Comme nous l'avons vu dans les cours précédents, l'écrasante majorité des innovations sont incrémentales. Elles s'appuient sur le passé pour se projeter vers l'avenir. Un bon moyen de définir ces sujets d'amélioration est tout simplement d'écouter et d'observer vos clients. Mais les écouter vraiment, pas juste écouter ce qu'il vous plaît d'entendre, non. Avoir vraiment le courage d'écouter ce qu'ils ont vraiment à vous dire, le bon comme le moins bon. Je dirais surtout le moins bon, parce que chaque problème, si vous voulez, est une opportunité pour innover. Lorsque vous cherchez à améliorer un produit, il est aussi important, eh bien, de penser aux non-clients. Rappelez-vous une évidence, vous avez plus de non-clients que de clients. Alors sauf évidemment si vous vous appelez Google. Et au final, plus vous aurez de contact avec eux, avec vos clients, plus vous aurez des remontées d'informations, et bien pour faire progresser votre offre. C'est vraiment le nerf de la guerre. Il y a une expression que j'aime bien de John Maxwell qui dit Un homme doit être assez grand pour admettre ses erreurs, assez intelligent pour apprendre de celles-ci, et assez fort pour les corriger. Alors il existe des plateformes, vous voyez, de co-création, qui voient de plus en plus le jour actuellement, et certaines fonctionnent très bien et mobilisent de nombreux acteurs parmi les clients. Eh bien tout ça, vous voyez, c'est un bon moyen de réunir des clients passionnés et impliqués qui partagent leur expérience et leurs attentes. Vous avez vraiment tout intérêt à créer un système autour de votre entreprise, autour de vos projets, où finalement vous augmentez la surface de contact avec vos clients. Toujours sur un horizon moyen terme, si vous disposez d'un portefeuille de brevets, vous êtes sans doute rendu compte qu'on se laisse vite parfois surprendre par le temps qui passe. Alors on ne pense pas toujours à renouveler suffisamment un brevet dont dépend quelquefois une part importante de l'activité de son entreprise. Pour autant, vous voyez, sur le brevet, l'avenir est écrit à l'avance pour le coup, parce que la durée de protection d'une invention, eh bien vous le savez dès le début, elle est limitée dans le temps, c'est-à-dire 20 ans maximum. Alors du coup, si vous souhaitez assurer une continuité dans votre portefeuille de brevets, eh bien il est important de prévoir un sujet d'innovation sur ce thème. Eh bien cette anticipation vous évitera tout simplement un trou d'air dans l'évolution de vos produits dans le cadre de la propriété industrielle. Alors maintenant parlons de l'exploration de nouvelles propositions de valeur, donc là on est sur un horizon plus long terme. Eh bien c'est le niveau qui probablement transformera le plus votre entreprise. Ou alors vous permettra d'en créer une si vous partez de zéro avec un esprit pionnier. Eh bien l'exploration de nouvelles propositions de valeur vous permettra de réinventer les choses telles qu'elles existent actuellement. Alors c'est évidemment une démarche qui s'inscrit sur un temps plus long. Cela veut dire que vous n'obtiendrez pas de résultats immédiatement. Dans cette démarche d'exploration, vous voyez, il faut savoir semer des graines pour récolter. Pour définir vos challenges d'innovation, vous devez vous laisser tirer par le futur. Alors vous voyez les deux horizons différents, c'est-à-dire l'exploitation de votre activité et l'amélioration de vos produits, vous êtes plutôt poussé par le passé. En revanche, là, réellement, vous devez vous laisser tirer par le futur. Et vous devez vous poser la question à savoir quelles sont toutes les nouvelles techno, toutes les nouvelles tendances qui finalement vont impacter vos produits. Ça doit vous questionner pour imaginer un avenir sur le plus long terme. Si on prend quelques exemples de tendances qui doivent finalement vous questionner pour participer à l'évolution du monde de demain, eh bien vous pouvez vous poser la question, tout du moins confronter votre activité à des sujets comme la transition énergétique, la transformation digitale ou alors le développement durable. Vous voyez, tous ces sujets-là doivent vous questionner. Évidemment, c'est un pari sur l'avenir, car vous comme moi, eh bien, ça montrait bien que l'avenir est incertain. Mais cela n'empêche pas pour autant d'avancer et d'adapter votre chemin en cours de route. Pour vous inspirer, il est intéressant, voire même conseillé, de vous ouvrir aux autres. Vous devez rassembler des énergies complémentaires et collaborer avec les autres. Alors pour augmenter vos collaborations avec l'extérieur, voici quelques suggestions pour créer des liens et des partenariats. Vous pouvez par exemple contacter des écoles à l'occasion de projets de fin d'études ou alors lors de challenges d'innovation étudiants. Vous pouvez contacter également des laboratoires spécialisés, or qu'ils soient indépendants ou rattachés à une université. Vous pouvez également collaborer avec des start-up innovantes ou alors tout simplement avec des communautés d'innovation, des Fab Labs, des réseaux de makers, et ainsi de suite. Donc vous avez comme ça tout un tas de relations que vous pouvez tisser avec l'extérieur pour développer votre activité, créer de nouvelles connexions pour vous enrichir et vous ouvrir. Quand on parle d'exploration, ce qu'il faut vous dire, c'est que l'avenir n'est pas écrit à l'avance. Et par conséquence, vous pouvez y trouver une place, et pour ça, vous devez retrouver l'esprit pionnier. Connectez-vous à votre environnement et écoutez votre intuition pour ressentir les choses. Voyez, en phase d'exploration, vous devez apprendre à suivre un cap, et bien sans forcément connaître toutes les étapes qui jalonneront votre parcours. Vous êtes vraiment dans l'inconnu. Vous devez écouter votre intuition parce que elle est comme un sixième sens qui vous guidera. Alors il y a une expression d'Henri Bernstein, un dramaturge français que j'aime beaucoup. Il dit « L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse. » Donc voilà, il faut savoir dépasser, sortir du cadre, dépasser les limites et faire confiance quelque part à son intuition. Alors comme tout pionnier, eh bien soyez ambitieux, faites des essais et apprenez vite. c'est vraiment la bonne démarche à suivre dans un monde d'incertitude. N'attendez pas d'avoir 100% des infos pour commencer à agir. Non, mettez-vous en action, ici et maintenant, et faites avec les moyens du bord. N'hésitez pas non plus à remettre en cause l'ordre établi pour imaginer de nouvelles manières de faire. Alors, en d'autres termes, sortez du cadre et bouleversez le statu quo, même si à première vue cela semble ridicule pour certains. Alors, souvenez-vous toujours des trois étapes par lesquelles passe toute vérité. Elles sont d'abord ridiculisées, ensuite elles subissent une forte opposition, et enfin elles sont considérées comme une évidence. Gardez toujours ça en tête, ça vous aidera à passer des caps difficiles. Alors maintenant, voyons ensemble 10 types d'innovations, eh bien, pour continuer tout simplement à prendre conscience de tous les territoires que vous pouvez conquérir. Alors en réalité, il existe plein de manières d'innover. Vous devez ouvrir le champ de l'innovation. Vous voyez, l'innovation ne se résume pas à la performance technique d'un produit. D'autres voies sont porteuses de valeur pour vos clients et pour votre entreprise. Pour innover, en réalité, vous disposez de plusieurs leviers qui peuvent vous différencier de vos concurrents. Il est même souhaitable d'innover sur plusieurs axes, vous voyez, et de coordonner l'ensemble. Au final, votre offre doit être cohérente et désirable pour votre client. Et évidemment, elle doit aussi être rentable et durable pour votre entreprise. Élargir le champ de l'innovation, eh bien, c'est pour vous l'occasion de maximiser vos chances de vous démarquer d'une offre qui est de plus en plus concurrentielle. En combinant, vous voyez, plusieurs types d'innovations, vous pourrez façonner de manière unique l'identité de votre entreprise. Et en faisant ça, votre offre n'en sera que plus difficile à copier. Alors, pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, maintenant, nous allons faire un tour d'horizon sur 10 types d'innovations, détaillés d'ailleurs dans l'excellent livre « 10 Types of Innovation » écrit par Larry Keeley, qui est un expert américain en innovation. Et il décrit, si vous voulez, tout le champ du possible lorsqu'on innove. On n'innove pas seulement sur la technique d'un produit. Lorsque vous cherchez à innover, gardez toujours en tête toutes ces possibilités. Alors vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors votre première possibilité, eh bien, c'est la construction de votre business model. Pour cela, il faut étudier la chaîne de la valeur et faire varier l'endroit où mettre la valeur justement. Cela revient à faire différent des autres, évidemment, dans la manière de générer du profit. Comme par exemple, pratiquer un niveau de marge différent, c'est-à-dire marger moins sur un produit pour le rendre plus attractif et marger plus sur des consommables. On peut prendre l'exemple de Gillette, hein, qui a su créer un nouveau marché en segmentant son produit et ainsi mettre plus de valeur dans le manche et vendre des lames interchangeables en tant que consommables. Alors la deuxième possibilité qui s'offre à vous, eh bien, c'est la connexion avec votre réseau pour créer de la valeur. Vous pouvez par exemple développer de nouveaux produits avec vos clients ou vos fournisseurs, alors c'est vraiment le cadre de la co-création, ou alors développer une nouvelle offre avec une autre entreprise ou avec un collaborateur surprise comme par exemple un designer connu, et enfin créer des alliances ou des partenariats avec des entreprises, d'ailleurs sans relation avec votre business. Alors on peut prendre l'exemple de Lego qui a développé un partenariat très très fort avec la saga Star Wars, en proposant d'ailleurs de nombreux produits. Et à ce jour, eh bien ce partenariat est l'un des plus fructueux de l'industrie du divertissement. Alors la troisième possibilité que vous avez, eh bien c'est l'organisation de votre structure pour aligner vos talents et vos actifs. Alors vous pouvez tout simplement organiser vos bureaux autour de vos projets, donc ça c'est simple à réaliser. Alors certaines entreprises vont plus loin et créent une université, on va dire corporate ou une académie. Alors, cela revient à aligner tout simplement vos compétences à vos activités réelles et le montrer à vos clients. Alors ensuite, vous pouvez fédérer et organiser les équipes autour de marques pour que cela encourage à travailler pour un objectif. Eh bien, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Decathlon en structurant toute son organisation produit autour d'univers sportifs. L'enseigne a créé comme ça de multiples marques de produits. Et ces marques fédèrent des employés passionnés autour d'un projet commun. Et lorsqu'on vit bien à l'intérieur d'une entreprise, eh bien ça se ressent à l'extérieur. Vos clients le ressentent. La quatrième possibilité que vous avez, c'est d'agir sur votre process et votre méthode. Vous pouvez par exemple suivre une méthode spéciale que vos concurrents ne peuvent pas copier, comme par exemple une recette spéciale dont vous gardez le secret, ou une machine de production que vous avez développée par vous-même. Vous pouvez aussi apporter quelque chose d'unique par rapport à votre produit, votre service ou votre plateforme. Vous pouvez aussi agir sur le coût variable de votre entreprise pour qu'il soit plus bas que la moyenne de votre industrie ou de vos concurrents. Et enfin, déposer des brevets par rapport à la techno, ou la méthode, ou le process que vous utilisez, eh bien tout simplement pour les rendre exclusifs. Alors, on peut prendre l'exemple de Zara, qui a tellement optimisé son processus de création de vêtements et de mise en production, eh bien que les délais entre le design et la vente sont tout simplement de 15 jours. C'est leur modèle J-15. Eh bien, vous voyez, ce niveau de réactivité se transforme ici en avantage concurrentiel sur un marché très changeant qui est porté sur la mode. Alors vous avez une cinquième possibilité qui est d'agir sur les fonctionnalités et la performance de vos produits. Pour cela, votre produit doit être facile à utiliser. Vous pouvez aussi faire en sorte que votre produit possède des performances ou des fonctions qui captivent vos clients. Vous pouvez aussi minimiser l'impact pour la nature, ou alors répondre à des niches ou des audiences que les autres ne peuvent pas atteindre. Et enfin, produire une offre supérieure qui domine le marché, créer en quelque sorte une offre premium. Comme par exemple Dyson qui a poussé très loin la performance de l'aspirateur en réduisant notamment la perte d'aspiration par la suppression du sac. Eh bien vous voyez, ce saut technologique a été tel que Dyson a tout simplement ringardisé toutes les autres marques pendant plusieurs années. Alors la sixième possibilité que vous avez, c'est de développer votre offre produit globale et vos services. Pour cela, vous pouvez créer des éléments modulaires, interchangeables, intégrer de telle sorte de créer de la valeur avec différents systèmes. Ou alors, faire des offres groupées sous forme de package. Vous pouvez aussi créer des services via une plateforme. Et enfin, laisser d'autres acteurs créer des produits qui s'interfacent aux vôtres. Voyez par exemple, en créant le pack Office, Microsoft a créé un écosystème autour duquel de nombreuses marques de PC ont pu prospérer. C'est vraiment gagnant-gagnant, car le développement des PC a permis de hisser Microsoft au sommet. Alors la septième possibilité que vous avez, c'est de développer vos services pour amplifier la valeur de vos produits. Pour cela, vous pouvez rendre votre produit facile à essayer, facile à utiliser et facile à apprécier, ou alors faire vivre des expériences qui feront revenir vos clients encore et encore, comme la mise en valeur de l'usage du produit, le support client, le support maintenance, l'information et l'éducation. Vous pouvez aussi proposer des garanties intéressantes sur votre offre produit et enfin créer une communauté robuste qui aime vos produits et qui aide les autres clients. Et un bon exemple à ça, c'est ce que fait le Roi Merlin à travers son campus où il propose plus de 280 cours de bricolage en ligne et en magasin. Et bien vous voyez, ce canal de communication positionne la marque comme experte et entretient une image de proximité avec sa communauté. Alors la huitième possibilité que vous avez, ce sont tous les efforts que vous ferez pour délivrer vos produits à vos clients et à vos utilisateurs. Vous pouvez par exemple livrer vos produits d'une manière qui challenge la façon de faire habituelle, ou alors faire fonctionner le bouche à oreille. Vous pouvez aussi utiliser des canaux de distribution complémentaires, comme le retail, le e-commerce, et enfin aider les autres à vendre ou à distribuer vos produits. Vous voyez, on peut prendre à travers ce thème l'exemple de Nespresso qui a créé une mise en scène exclusive de son offre partout où la marque est distribuée et propose en réalité une expérience vraiment unique dans ses boutiques. Alors vous voyez, cette stratégie innovante dans la distribution, elle apporte une grande valeur au produit. Alors la neuvième possibilité que vous avez, c'est de créer un univers de marque qui représente votre offre et votre business. Alors les clients doivent connaître, se rappeler et préférer vos produits par rapport à vos concurrents. Rappelez-vous que pour être adopté, votre offre doit être mémorable. Or, on peut dire que la marque confère du sens, des intentions et de la valeur à votre offre. Dites-vous aussi qu'un univers de marque ne se limite pas aux produits finis. Vous pouvez par exemple marquer vos composants pour créer plus de valeur. C'est ce qu'a fait Gore-Tex, qui est une marque de composants. Vous savez, les membranes imperméables et respirantes qu'on retrouve dans les chaussures, dans les vestes. Cette marque est reconnue mondialement, voire quelquefois plus que le produit fini. On dit souvent « je veux une veste de randonnée Gore-Tex » plutôt que de mentionner la marque réelle de la veste. Alors vous pouvez aussi faire utiliser votre marque par d'autres, comme par exemple en allouant des licences. Votre univers de marque vous permet aussi de faire en sorte que vos clients et vos utilisateurs sentent qu'ils font partie d'une communauté. Vous voyez, les clients éprouvent toujours le besoin de se fédérer à des groupes. En somme, cela revient à créer une vraie identité par la marque. Alors, il y a un bon exemple qui est à citer, c'est celui de Virgin, qui a créé tout un business autour d'une image de marque vraiment très forte. Alors que ce soit à travers les disques, les vols ou la téléphonie, on retrouve toujours la même identité et les mêmes valeurs. Alors, la dixième possibilité qui s'offre à vous pour innover, ce sont toutes les interactions que vous créez avec vos clients. Vous pouvez créer des interactions pour rendre facile la réalisation d'une tâche ou sa maîtrise, ou alors créer des événements pour construire une identité unique pour vos clients. Vous pouvez aussi faire en sorte que vos clients parlent de votre produit ou de votre service comme étant devenu une part importante de leur vie. Tout cela, vous voyez, contribue eh bien, au marketing viral. C'est ce qui fera que la communauté en fait, créera une dynamique autour de votre marque. On peut prendre l'exemple de Red Bull, hein, qui a créé vraiment une image de marque très très forte auprès des jeunes en véhiculant ses valeurs à travers les événements sportifs extrêmes qu'elle sponsorise ou organise. Alors nous venons de voir les trois horizons sur lesquels vous pouvez innover et 10 types d'innovations qui vous ont montré ce que l'on peut faire au-delà même de l'amélioration d'un produit. Alors maintenant, voyons ensemble la méthode des 9 écrans qui vous sera utile pour imaginer l'évolution de vos produits. Alors, la méthode des 9 écrans, c'est quoi ? Eh bien, à travers un questionnement ludique, les 9 écrans permettent d'imaginer l'évolution d'un produit. Quand on conçoit un nouveau produit, il arrive souvent qu'on ait le nez dans le guidon, au risque parfois de passer à côté de l'essentiel des choses. Eh bien, la méthode des 9 écrans est un bon moyen de représenter l'ensemble des informations sous une forme plutôt synthétique. Alors ça vous permettra d'avoir une meilleure lecture de la situation et des enjeux réels liés à l'évolution du produit. En remplissant les 9 écrans, vous prendrez aussi du recul sur l'évolution possible de votre produit et de son environnement. Alors l'intérêt de la méthode des 9 écrans est qu'elle prend en compte une vision systémique. Alors c'est quoi tout ça ? Eh bien tout d'abord, au centre de votre matrice se trouve l'objet technique que vous voulez faire évoluer, c'est le système. Puis l'approche systémique eh bien, vous invite à définir le sous-système et le super-système. Le sous-système, eh bien, ce seront par exemple les composants ou les sous-ensembles qui permettent à votre objet, votre produit, de fonctionner. Et le super-système, eh bien, c'est, voyez, tout l'environnement, l'utilisateur et les services qui sont associés à votre produit. La méthode des 9 écrans prend en compte également une vision historique. Et c'est ça qui la rend vraiment très très intéressante. Parce que vous voyez, l'approche historique eh bien, vous invite à identifier la situation passée pour chacun de ces niveaux, puis il vous reste à imaginer l'évolution de chaque niveau. Et c'est là que la méthode est puissante et en même temps très ludique, parce que le fait de comprendre l'évolution du passé vers le présent eh bien, vous permettra de préfigurer la situation future par une simple extrapolation. À travers l'approche sous-système, hein, vous intégrerez les évolutions technologiques des composants par exemple, et l'approche super système, eh bien, vous permettra de prendre en compte les évolutions d'usage et contextuelles. Alors, voyons tout ça plus en détail à travers un exemple. Pour cet exemple, eh bien, prenons un produit que vous connaissez bien, qui est le volet roulant. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est de définir le système, c'est-à-dire l'objet technique. Alors, vous voyez, le système ici, eh bien, c'est le volet roulant, c'est ce que l'on met au centre de cette matrice, hein, cet ensemble de 9 écrans. Eh bien, le volet roulant a pour fonction eh bien, de protéger l'intérieur d'une habitation, hein, de l'environnement extérieur. Alors, par environnement extérieur, on entend la lumière, la température, les personnes externes. Hein. Eh bien, pour caractériser eh bien, ce volet roulant, vous pouvez utiliser ben, ce terme tout simplement, ou alors utiliser un terme plus générique pour ne pas brider votre imagination. Alors, pour le volet roulant, on pourrait utiliser aussi le terme de fermeture, par exemple, qui reste compréhensible sans être trop signifiant. Alors la deuxième étape, c'est de décrire le sous-système. Donc vous vous souvenez, hein, les composants et les sous-ensembles. Pour le sous-système, eh bien, le volet roulant comprend un tablier. Donc le tablier, c'est l'ensemble des lames du volet, qui sont en aluminium, généralement aussi en PVC. On pourrait également indiquer eh bien, qu'il est constitué d'un moteur électrique et d'une interface utilisateur, comme par exemple la télécommande. Ne cherchez pas à être trop exhaustif, hein, l'idée est d'identifier les principaux organes qui permettent au système de fonctionner. Si vous utilisez une liste trop longue, ça rendra l'exercice laborieux et ça brouillera la clarté de votre présentation. Alors vous pouvez vous limiter par exemple de 3 à 7 organes, mais pas plus. Alors la troisième étape, c'est de décrire le super système. Alors là, on va parler de l'usage, de l'environnement et des services. Alors dans le cadre du volet roulant, on pourrait décrire le super système de la manière suivante. Par une simple commande de l'utilisateur, le volet roulant qui est intégré dans la maçonnerie, eh bien, permet de fermer partiellement ou totalement l'accès à une ouverture telle qu'une fenêtre. Alors, c'est un point qui peut être assez vaste en fonction du périmètre auquel vous vous limitez. Ne vous en faites pas, votre intuition saura vous guider pour définir si vous devez parler plus de produits, de services ou d'usages. Alors la quatrième étape, eh bien, c'est de définir l'état passé pour chacun de ces niveaux, donc le sous-système, le système et le super-système. Au niveau des sous-systèmes, eh bien, par le passé, les lames étaient plutôt en bois, la manœuvre était manuelle, vous savez, à sangle ou à tringle oscillante, même si c'est encore le cas pour quasiment la moitié des volets roulants actuellement. En tout cas, c'était l'évolution, on va dire, passée de ces composants de volets roulants. Ensuite, au niveau du système, eh bien, les produits qui ont précédé le volet roulant dans l'arbre d'évolution étaient les volets battants, les volets articulés, vous savez, les volets métalliques là qui se plient comme des accordéons, ou alors les volets persiennes, ou tout simplement le rideau, si on considère l'aspect fermeture plutôt que volet roulant. Et puis au niveau super système, eh bien, il fallait avant ouvrir la fenêtre pour accéder au volet. Le volet était rapporté en applique sur la maçonnerie. Bon, c'est encore le cas maintenant, mais le procédé est plutôt ancien. Et le volet était soit fermé, soit ouvert. Donc vous voyez, cette mise en situation nous montre une évolution pour chacun des niveaux du système, et bien suivant plusieurs tendances. Alors le simple fait d'écrire la situation passée et présente, et bien nous indique où se situe l'évolution. Donc c'est vraiment le point de départ pour imaginer par transposition ce que sera la situation future. Alors la cinquième étape, eh bien, c'est de définir des hypothèses d'évolution. Alors vous voyez, une évolution qui saute aux yeux, ici, c'est le niveau d'intégration. Alors avant, le volet était rapporté en plus de la fenêtre. Actuellement, le volet est plutôt intégré à la maçonnerie. Il est juxtaposé à la fenêtre en forme de bloc-baie. Vous savez, c'est un ensemble monobloc constitué du volet roulant et de la fenêtre. Eh bien après, on pourrait préfigurer l'avenir en se disant que le volet roulant eh bien, puisse fusionner carrément avec la fenêtre, comme par exemple faire en sorte que le verre devienne photochromique et s'opacifie à la demande. Vous voyez, la notion de fermeture, d'occultation se ferait à travers la vitre. On pourrait également imaginer que l'alimentation électrique eh bien, devienne intégrée dans le système grâce à un panneau solaire qui serait inclus, non pas rapporté sur la maçonnerie, mais inclus dans le verre de la fenêtre. Donc vous voyez, on voit à travers cette évolution eh bien, un système qui s'intègre de plus en plus dans le super-système. Alors une autre évolution saute aux yeux, c'est le niveau d'intervention humaine. Avant, avec une manœuvre manuelle, eh bien, l'utilisateur intervenait sur l'ensemble du cycle, il était opérateur finalement. Actuellement, eh bien, l'utilisateur intervient sur la télécommande, donc finalement c'est lui qui commande le système, qui est lui-même motorisé, et prend le relais au niveau de la manœuvre, donc l'utilisateur devient contrôleur. Pour préfigurer l'avenir, on pourrait imaginer que le système devienne totalement automatique, et donc l'utilisateur deviendrait superviseur. Alors vous vous en doutez, c'est déjà la mutation qui est engagée aujourd'hui avec l'évolution de la domotique, et qui s'amplifie et s'accélère avec notamment l'arrivée sur le marché eh bien, des géants de l'Internet, les Google, Apple, Amazon, qui en s'intégrant dans l'univers de la domotique, eh bien, permettent à des systèmes automatiques eh bien, de fonctionner de manière autonome. Alors une autre évolution qui saute aux yeux, eh bien, vous voyez, c'est le niveau de contrôle. Alors avant, l'utilisateur eh bien, manœuvrait le volet par lui-même et s'assurait visuellement eh bien, qu'il était finalement fermé ou ouvert. Et puis aujourd'hui, eh bien, l'utilisateur commande une position voulue et le système positionne le tablier à la bonne hauteur. On arrête le tablier exactement où l'on veut. Eh bien, on pourrait imaginer l'évolution suivante, qui est que le système devienne autonome et s'adapte seul aux conditions extérieures, et que grâce aux prévisions, eh bien, le système anticipe la fermeture partielle ou totale de la fenêtre. On peut imaginer un système qui devienne auto-apprenant et qui adapte son comportement selon les habitudes de l'utilisateur. Alors maintenant, la sixième étape, eh bien, c'est d'imaginer la suite. Vous l'aurez compris, les 9 écrans ne vous donnent pas directement de solution. Mais en réalité, à l'aide de ces suggestions d'évolution, vous allez pouvoir imaginer votre futur produit. En réalité, votre seule limite est celle de votre imagination. À ce moment-là, vous êtes dans une étape vraiment importante du processus créatif. Alors, je vous invite justement à faire cet exercice en groupe, parce que c'est très intéressant et très fédérateur. Et puis, ça permet de partager une même vision de la situation et de partager, eh bien, des opportunités pour préfigurer l'avenir de votre produit. Alors maintenant, c'est le moment de lister vos challenges d'innovation. Parlons tout d'abord de votre plan d'innovation. Parce que nous avons vu durant ce cours, eh bien, finalement, plusieurs choses. Tout d'abord, les trois horizons sur lesquels vous devez vous projeter. Vous vous souvenez, le court, le moyen et le long terme. Ensuite, nous avons vu 10 types d'innovation, eh bien, pour vous inspirer au-delà même d'une simple évolution de produit. Et puis, avec la méthode des 9 écrans, eh bien, vous avez vu que vous pouvez projeter votre produit dans le futur. Alors maintenant, il est temps de commencer à lister vos challenges d'innovation et construire votre plan. Et ensuite, eh bien, de choisir le challenge pour lequel vous allez vous lancer en premier. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Donc voici ce que vous devez faire maintenant pour appliquer ce cours. Eh bien, tout d'abord, listez vos challenges d'innovation en répondant au questionnaire qui est inclus dans le document fourni juste au-dessous de cette vidéo. Donc c'est un document que vous pouvez télécharger. Ensuite, choisir un de vos produits phares et utiliser les 9 écrans pour préfigurer son évolution. Donc là aussi, vous pouvez utiliser le document mis à disposition au-dessous de cette vidéo ou tout simplement faire l'exercice sur un tableau en groupe. Donc c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Puis, vous devez identifier votre challenge à relever et placez-les sur un horizon de temps, c'est-à-dire court terme, moyen terme ou long terme. Et enfin, identifiez les acteurs que vous pouvez solliciter pour favoriser des opportunités. Eh bien, c'est la fin de ce cours. Il me reste à vous souhaiter un bon exercice et vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo.